Dans le cadre du nouveau festival Multipiste Texte Musique Expérience organisé par le Bleu du Ciel, nous vous proposons une série d'émissions consacrées au lien entre le son et le texte qui ponctueront l'été avant le démarrage des concerts, ateliers et rencontres organisés sur plusieurs villes du territoire néo-aquitain pour plus d'un mois à partir du 19 septembre. Ces émissions sont à l'initiative de la résidence d'artistes La Pommerie à La Chaux et en association avec Paysage à Flaya qui œuvre pour le développement culturel en milieu rural, nos deux partenaires de la Creuse. L'occasion d'entendre des interviews d'artistes et d'écrivains participant à cette première édition du Multipiste ou d'autres personnalités du monde du son et de l'écriture d'aujourd'hui, des morceaux enregistrés en live, des archives de poésie sonore ou de groupes underground locaux. Aujourd'hui, nous sommes avec Didier Vergniaud, qui est l'organisateur du festival Multipiste, mais qui est aussi écrivain et qui fait partie d'un duo et trio qui s'appelle Chansons déviées, avec Frédéric Desmesures et Mathias Pontevia. Est-ce que vous pouvez chacun, en quelques mots, juste vous présenter pour qu'on vous situe dans le trio ? Mathias, tu veux commencer ?
Si tu veux, donc Mathias Pontevia, je suis musicien, essentiellement, à la batterie. Je pratique beaucoup l'improvisation et une autre forme de musique plus écrite mais avec une marge d'improvisation, notamment avec Manu Duval. On a le groupe Rien Virgule par exemple, avec qui on joue, on enregistre et c'est un trio avec Anne Carey également. Donc voilà, je fais essentiellement de la batterie, mais je m'intéresse beaucoup aussi à la prise de son, à des choses mixtes, électroniques et field recording, comme on dit, enregistrement mixé dans de la musique, etc. Voilà, je fais un peu ce genre de choses.
On va écouter un morceau de Rien Virgule, ton groupe Mathias Pontevia, notamment avec Manuel Duval, qui s'appelle Stella Cannibale. On vient donc d'entendre Stella Cannibale du groupe Rien Virgule. Frédéric Desmesures, Fred, si tu peux te présenter en quelques mots.
Oui, alors moi je suis dans la vraie vie photographe, hein, professionnel, et je fais des expositions, des livres. J'ai un statut d'auteur-artiste. Et j'ai depuis très très longtemps une guitare et même plusieurs à côté de moi. Je suis aussi un guitariste. J'ose pas dire musicien parce que je suis quand même assez amateur quelque part au sens étymologique du terme. Et j'ai rejoint Mathias et Didier qui étaient en duo il y a 2 ans, hein, je crois. Et j'ai subi l'influence de Mathias qui est dans l'improvisation et j'y ai trouvé une forme de libération. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus proche que musiciens comme Fred Frith ou des choses comme ça. Et je travaille aussi avec d'autres. J'accompagne aussi d'autres poètes, comme Vanina Maestri par exemple.
Oui, pour Un Monde Parfait, dans le cadre de Multipiste, toujours, où tu as ce duo avec Vanina aussi. vient d'entendre la quatrième piste de Improvised Music de Fat Freeze.
Didier Vergniaud, c'est toi l'initiateur du coup de cette réunion. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail ?
J'écris depuis très très longtemps, donc écrivain version poésie contemporaine. Et mon métier d'éditeur fait en sorte que sur le domaine de l'avant-garde littéraire, j'ai été amené à croiser énormément d'autres formes d'expression, art plastique essentiellement, et son. Avec la littérature. Voilà, donc ça me passionne et j'ai trouvé tout naturel. Je connais Mathias et son travail depuis longtemps. De l'associer à des expériences dans lesquelles le texte s'installe, d'artiste à artiste, dans le son. C'est aussi des histoires de relations, de rencontres, d'amitié. Et donc, on était d'accord tous les deux pour inviter Frédéric à nous rejoindre à la guitare. Et puis il y a d'autres. Sur le modèle des jazzmen ou de la musique improvisée, d'autres formes d'associations possibles, de configurations, je trouve ça très beau. Et après, c'est un pari. Voilà, c'est un pari. La littérature, il y a des expériences. Je viens beaucoup, moi, de la lecture publique, de la poésie sonore. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été tentées entre la littérature et la musique, notamment à partir de la Beat Generations. Mais ce n'est pas non plus des choses si courantes que ça, si pratiquées que ça. Malheureusement, les choses sont toujours un petit peu cloisonnées encore. Alors voilà, c'était aussi la question que je posais aux musiciens, c'est est-ce que vous avez envie de ça ? Donc tout le monde ne répond pas positivement, mais il y a des gens qui veulent le tenter, je trouve ça chouette. Des écrivains pareils qui osent pas, et puis d'autres qui osent. Le mot expérience est dans le titre du festival parce que on est quand même sur des formes toujours expérimentales. Ça sera jamais fixé définitivement. Ça sera toujours des prototypes à faire circuler, donc des idées qui peuvent servir à d'autres. C'est un peu mon idée de la chose. Et puis si on peut entendre un texte étonnant. Par rapport à des gens qui nous écoutent à cause de la musique, qui découvrent. Et inversement, moi, j'ai des gens qui lisent des livres et qui sont tout à fait surpris d'entendre ce genre de musique, parce que c'est pas aussi, pour l'instant, des gens avec lesquels on joue. Malheureusement, c'est très beau, de grande qualité, mais ça passe peu sur les grandes ondes. Ou, voilà, c'est toujours ce problème d'une culture exigeante en ce moment. Et puis depuis longtemps, malheureusement. Et donc, il y a des rencontres de part et d'autre qui se font. C'était aussi un peu mon objectif. Donc, à la fois diffusion, et puis à la fois, après, un travail aussi sur artistique. Pour moi, c'est aussi... c'est ça qui est aussi passionnant. Voilà, faut que ça ait une raison de vivre, sinon c'est inutile de faire tout ça.
On va écouter, justement, un travail que vous faites tous les trois sur un nouveau morceau, avec différentes réactions.
Si c'est pour obtenir un rendez-vous forcé. Cette fois où j'ai tourné le dos. Si c'est pour ça, si c'est pour obtenir un rendez-vous forcé en qualité de précaire. C'est une déception. À partir de là. Dessus. Dessous. Sans signification, au plus fort, et faute de mieux. Je redeviens dangereux. À bout portant. J'additionne la rue. Redevient dangereux. Faute de mieux. Je révise mon jugement. Faute de mieux. En fer blanc. Au goût de feutre. Je redeviens coupant. Alerte. Guerre froide. Coupante. J'additionne la rue. Je révise mon jugement à bout portant. J'additionne la rue en fer blanc. Je rapporte à bout portant. On court après sa peau dans l'adversité, par défaut. Braque. Guerre froide. Coupante.
Vous venez d'enregistrer un nouveau morceau. On vient d'écouter la première version. On va maintenant écouter la troisième version.
C'est une déception. En qualité de précaire. Cette fois où j'ai tourné le dos. Si c'est pour obtenir un rendez-vous. En qualité de précaire. Dessus. Dessous. Et sans signification, à partir de là, au plus fort, et faute de mieux, je redeviens dangereux, dangereux, coupant. Fer blanc au goût de feutre. J'additionne la rue, je redeviens dangereux. Je redeviens coupant. Mon jugement, guerre froide, coupante, j'additionne la rue au plus fort et faute de mieux, je redeviens dangereux. Cours après sa peau, dans l'adversité, par défaut. Coupante. Débarras braque. Coupante. Au goût de feutre. J'additionne la rue, je redeviens dangereux. Des ennuis commencent. Aux environs nerveux. Laisse-moi terminer. On court après sa peau. Dans l'adversité.
Identité de précaire, faute de mieux. Dessus, dessous et sans signification, je redeviens dangereux. J'interromps le service, je redeviens dangereux. Par défaut.
Mathias Pontevia, Fred Desmesure et Didier Vergniaud, quelques réactions à chaud donc sur cette première et cette troisième version de votre nouveau morceau.
Moi, il y a des pistes là-dedans, mais ça mériterait d'être rejoué. Moi, je trouve moins intéressant, moins réussi, pas intéressante, mais moins réussi que la première. On a des tensions et on est tout mou, en fait.
Oui. Je trouve qu'il y a moins d'unité que la première, et finalement, elle est en plus assez sage, finalement, quoi. De temps en temps, il y a des choses qui codent, qui marchent bien, et on passe à autre chose. Elle est un peu plus brouillon, parce qu'il y a plein de choses qui sont traversées, qui mériteraient d'être poussées. Il y a moins d'unité que la première prise.
C'est une version intéressante aussi. Disons que la batterie de la première version est plus précieuse, plus régulière, et du coup, sa structure... plus le morceau, peut-être.
Ah, ce qui est marrant, c'est que par rapport à mon texte, même s'il n'y a pas le même univers sonore entre le premier morceau et le troisième, qui sont en débat, là, il y a peu de différences de signification ou d'interprétation. Alors que souvent, moi, je calque le texte, la façon dont je peux remettre des segments en plus, recomposer des phrases qui n'existent pas au départ à partir de morceaux de texte, et qui prennent une signification particulière par rapport à ce que j'entends de la musique. On peut dire que les deux propositions musicales sont différentes. Il y a très peu de différences de texte, finalement, de rythmique légèrement différente par moment, et pas beaucoup, et très peu de variations, finalement. Et ce qui peut paraître étonnant par rapport à la façon dont je travaille. Donc ça veut dire que peut-être que les morceaux ne sont pas si éloignés entre le 1 et le 3 que ça.
Mais c'est-à-dire qu'on composerait un disque, par exemple. On pourrait fixer cette impro comme une composition à améliorer, etc.
Et oui, dans un album, on pourrait envisager un deuxième morceau ou un morceau avant qui permettrait une coexistence. Enfin, il y a une construction sur la totalité. Et là, on est sur juste une partie.
Oui, bah, faut dire que ce morceau, par exemple, on avait tenté une seule fois dans un moment antérieur, comme ça, lors d'une répétition, sans rien fixer. Et c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment en tête. On arrive tous, donc c'est une façon de livrer quelque chose de nouveau dans cette dimension un peu expérimentale. Et bon, ouais, on prend position, on a peut-être même la chance, moi j'ai moins l'habitude que vous, on a peut-être la chance que ça ressemble de suite à quelque chose, ce qui des fois peut-être pas le cas, hein, j'imagine. Faut peut-être plusieurs jours pour qu'un morceau sorte de terre avec des bonnes pistes musicales, j'en sais rien. Hein, c'est pas là. C'est incroyable, c'est le premier morceau qu'on a fixé de suite qui est arrivé comme ça, qui me semble vraiment la belle piste à suivre. Et là, sur le premier, Mathias, on parle d'improvisation, mais on a l'impression que quand même, toi t'as une structure qui est assez carrée sur ce premier morceau, t'as une idée que tu développes. T'étais en improvisation là ou tu avais construit quand même déjà un schéma que t'appliquais ?
Oui, je suis en improvisation, mais après on c'est toujours pareil, on peut définir ce que c'est que l'improvisation. Pour moi, l'improvisation, c'est pas faire tout ce qui me passe par la tête à tout moment, etc. En l'occurrence, tu m'avais orienté par rapport à l'enregistrement de travail qu'on avait, l'histoire de la cloche avec une sorte de débit, tu vois, tout ça. Moi déjà, c'était une idée. C'est une idée, tu vois, que j'ai reprise. J'avais pas la même cloche et tout, mais j'ai repris cette idée-là du débit avec des tout petites baguettes de cuisine chinoise, tu vois, comme disait Manu, une sorte de débit rapide et très fin, tout ça. Donc ça, pour moi, c'était une idée. Après, je l'ai fait en improvisation parce que je l'ai développé en réaction ou en contre-réaction par rapport à ce que toi et Fred proposent en même temps, tout ça. Mais en gros, je garde la même idée, quoi. Moi, j'appelle ça de l'improvisation. Après, cet enregistrement-là, il est un peu comme un enregistrement de travail. C'est-à-dire que on essaie de... Il se trouve qu'on a fait une bonne version tout de suite, moi je trouve, mais admettons qu'on ait à la jouer plus tard en concert sans improviser, je reprendrai la même idée et j'enlèverai ça pour... Je la fixerai. Là, j'ai procédé comme ça. Et par exemple, la troisième version qu'on a moins aimée, j'ai fait la même chose, mais
ouais, avec une autre
de façon plus hirsute, en fait. Ouais. Et donc, j'ai eu des idées, trop d'idées, et justement, donc c'est ça qui fait, pour ma partie, le truc décousu. Toi, t'as fait la même chose, t'as tenu bon sur ton idée. Fred, il a fait légèrement autre chose, avec des saillies, par exemple. Mais moi, principalement, ce qui va pas dans ce morceau, la troisième version, c'est la batterie, par exemple. Elle est à chier, quoi. J'ai fait trop de trucs. Je suis un peu pareil, mais c'est pas pareil. On avait émis des idées de faire des tensions. Alors, j'ai mis très bêtement des grands coups de cymbales. Ça symbolise pas du tout la tension. C'était une idée à la con, en fait. Bon, et c'est pour ça que c'est mauvais, je pense, par exemple. Et ça serait à refaire. Une quatrième version, je ferais autre chose. Autre chose. Pas tout à fait autre chose, mais j'enlèverai ce qui va pas. Enfin, je peux procéder comme ça, moi, si.
D'accord.
D'entendre le vent et danse de Dieu. Il y a cette idée d'expérience qui est très forte et on a la sensation que l'improvisation s'y prête particulièrement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Mathias, justement sur ta pratique, sur la façon dont tu réagis au texte, dont ça se travaille
C'est une question hyper vaste, c'est-à-dire que je peux parler de, par exemple, la façon dont je travaille avec Didier.
Oui, bien sûr.
Diverses phases. Avec Didier, on était en duo d'abord, et puis ensuite en trio avec Frédéric de Mesure. Le duo, c'est très souple comme formation. On peut réagir très vite. C'est pas la même chose qu'en trio. Donc, quand on était en duo, on était franchement dans l'improvisation. Enfin, moi, en tout cas, Didier n'improvise pas quand il lit. Enfin, il n'improvise pas l'écriture. Il improvise éventuellement sa façon de le lire. Et moi, je tiens à ça, absolument. Je veux pas travailler avec des gens qui inventent des poèmes en les faisant, parce que je trouve ça mauvais. Et parce que je pense que la poésie, l'enjeu du travail de la poésie, il est à table. Enfin, à table, je veux dire qu'il est, il est pas dans l'instant. Par contre, lire, c'est dans l'instant. Et la musique est aussi un art de l'instant. J'en suis très persuadé, même si ça a des implications sur la mémoire, sur l'écoute, sur l'avenir, la trace. Ok, mais l'enjeu, il est instantané. Donc, c'est un point de rendez-vous qu'on a tous les trois, par exemple. Je suis persuadé qu'on a ce lieu commun qui est faire les choses dans l'instant. Lecture, son. J'essaie de ne pas réagir. La poésie, et en particulier la poésie sonore contemporaine, telle que la pratique Didier, par exemple, ce sont des choses écrites à l'avance, pensées à l'avance. Il peut modifier deux, trois trucs à la volée, bien sûr, il est quand même libre, mais c'est quelque chose qui est écrit, déjà. La façon dont j'essaie de ne pas réagir, elle est liée au fait que la poésie, je pense que c'est du sens. J'arrive pas à me détacher du sens, en tout cas, moi. J'arrive pas à aller, même si c'est de la poésie sonore, j'arrive pas totalement à me détacher du sens. J'arrive pas à entendre du son. Un peu, mais... j'ai tendance à pas réagir. Je dois faire... Je me dis que je fais mon boulot. J'ai une idée, je la développe dans l'improvisation, ou alors quelque chose que j'ai fixé à l'avance. Je trace, et quoi qu'il se passe, ma réaction, c'est de ne pas réagir. Je le laisse libre de faire son truc, et lui aussi me laisse libre de... S'il y a des accidents, ils sont souvent heureux. Des fois, je le couvre trop, ou alors c'est nul ce que je fais, etc. C'est des choses qui peuvent arriver, mais globalement, j'aime bien l'idée qu'on avance ensemble dans nos domaines. On respecte nos domaines, et on est dur entre nous aussi. Je lui rentre dedans... Pas volontairement, mais parce que je fais mon boulot. Et il peut me rentrer dedans aussi, mais on va ensemble parallèlement. C'est mon idée de la question. Parce que je pense intimement que la poésie et la musique ont rien à voir et rien à faire ensemble. Même si je sais que tu vas me dire historiquement...
Didier, tu as quelque chose à dire
C'est un art, oui. Ce sont deux arts qui sont liés et qui sont des jumeaux depuis la Grèce antique.
Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que pour ma part, quand même, j'ai une écoute. Et le fait est que, suivant ce qui se passe avec Mathias et Frédéric au niveau de la musique, ça influence sur mon rythme, qui est déjà quand même quelque chose. Ralentissement, éventuellement certaines répétitions. Donc, il y a quand même une. Il y a quand même une interaction. J'essaye. Alors, cette idée de non-intervention est passionnante, je trouve. Moi, j'essaye quand même. Je ne dis pas que c'est une intervention, mais il y a une influence plus ou moins secrète sur ma hauteur de timbre, sur l'intensité, sur le rythme, et sur des choses que je peux, suivant ce que j'entends de la musique, recomposer, comme je disais tout à l'heure, à partir de mon texte de base, de la structure, recomposer des choses qui n'existaient pas avant ou qui interviennent, parce que là, c'est nouveau, préparer mes nouveaux en relation avec ce que j'entends. Voilà. Donc, je dirais que moi, je suis moins tranché que Mathias par rapport à ça. Il y a une alchimie un peu secrète et il y a quand même une transformation de la musique. Moi, m'amène à une transformation du texte. Et j'ai cette écoute. Mais bon, je ne suis pas professionnel, je voulais le dire aussi tout à l'heure. Et donc, des fois, bon, ça marche ou ça ne marche pas. Et puis, c'est intéressant, il y a des accidents et tant mieux. On n'est pas dans cette idée aussi de fixer un morceau, je disais, pour la variété ou la pop. Hein, donc, l'accident est bienvenu.
Mais... Si tu me permets, Julia, de préciser, ta question portait sur ma pratique de l'improvisation avec un autre média qui est, par exemple, la poésie avec Didier. Là où je te rejoins, Didier, ce que tu as dit, c'est que si je suis dans une logique de construire quelque chose avec toi, je vais moi aussi, bien sûr, m'accrocher au sens, à ta diction, à ta vitesse en particulier. Je ne serai pas tout à fait dans la même... logique que l'improvisation. Et je serai avec toi, même si on est libre de déborder, on fixe pas vraiment sur papier la musique, mais je suis plus dans une démarche d'improvisation totalement. Je vais composer avec ce qu'il me propose comme matériau et ce que propose Fred aussi. Je vais être sensible à une alchimie qui va être basée sur vitesse, violence, douceur, que sais-je, des paramètres classiques, quoi. Mais en particulier, ce que le texte implique comme... comme rapidité, comme temps d'exécution, tout ça,
c'est ce qui
je vais composer avec ça. Je vais proposer quelque chose avec ça. Je ne vais pas partir tout seul dans mon coin comme je ferais en improvisation.
Bien sûr, c'est ce qui permet aussi de passer de l'improvisation à la composition.
L'un amène l'autre. Des fois, on commence par faire n'importe quoi et on défriche et on se colle, on rectifie, etc. Si on veut composer...
Et Fred, toi justement, tu es en trio avec Mathias et Didier, et en duo avec Vanina, donc des
atmosphères. Et en duo aussi avec Didier.
Et en duo.
C'est vrai que on propose pas la même chose en duo avec Didier. En duo, on a presque un côté chanson, avec des ritournelles simples, très, très vite identifiables, comme certains morceaux de rap. Et ça fonctionne d'une manière binaire, évidemment, hein, et c'est assez efficace. Et effectivement, quand on joue en trio, on a un répertoire plus symbiotique. Il faut être au service des autres des deux autres, ça complique, ça amène une troisième dimension, une forme de relief qu'on n'a pas en duo.
Les duos eux-mêmes sont très différents parce que Vanina Main Street est dans une atmosphère
alors plus acoustique pour l'instant. Les concerts qu'on a pu faire ensemble sont plus acoustiques, c'est une guitare 8 cordes avec des cordes en nylon, donc mais je pense que ça va changer, on va certainement être plus rock. Vanina est plus punk, donc, mais ça va évoluer ça aussi, et c'est ça qui est bien d'ailleurs. Ce que j'aime beaucoup avec Didier et Mathias, c'est qu'on est en progression, j'allais dire en marche, non, surtout pas, mais on est en progression tout le temps, enfin en évolution plus que progression. Et j'aime bien aussi la prise de risque à chaque fois qu'on peut avoir avec la musique de Mathias, parce qu'elle nous amène plus loin quelque part. Prendre un risque, c'est le risque de se planter, c'est le risque d'être mauvais, mais en même temps c'est aussi le risque d'être quelque part ailleurs.
Extra suite. Sans dessus dessous. À l'évidence, je ne vois pas comment. C'est pire. C'est fonctionnel. Ça déraille. Avec des doutes. À l'évidence, je ne vois pas comment. Extra suite. Dans les défauts. Se reconnaître, encore pire, extra suite, c'est pire, c'est fonctionnel, à deux, je traduis, je m'en veux, suite, c'est pire, extra suite, c'est fonctionnel, division spectaculaire, machinale, c'est machinal, c'est sans importance, extra suite, c'est fonctionnel. Les gens disparaissent dans des cartons, c'est pire. Les gens disparaissent, c'est fonctionnel. Dans des cartons, je m'en sers, ça déraille, je m'en veux, je ne vois pas comment. À l'évidence, extra suite. Moindre des choses. À la demande. Je m'en doute. C'est machinal. C'est pire. C'est sans importance. Les gens disparaissent. Sans dessus dessous. À l'évidence. Je ne vois pas comment. C'est pire. Les gens disparaissent. C'est fonctionnel. Dans des cartons. Je traduis. À deux. À l'évidence. Ça déraille. Les gens disparaissent. À l'évidence. Je ne vois pas comment. C'est clair. C'est pire. C'est fonctionnel.
On vient d'écouter C'est pire de votre trio, Mathias Pontevia, Fred Desmesures et Didier Vergniaud. Il y a aussi le risque de l'écrivain qui transpose le texte en chanson. Comment ça se passe à ce moment-là ?
Alors là, c'est une vaste question que pose le festival tout entier. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on est dans le texte. Bon, voilà, donc c'est déjà compliqué à créer un texte littéraire. Alors après, l'écrivain, c'est pas un chanteur. Il y a des gens qui ont des voix plus ou moins intéressantes. Donc ceux qui n'en ont pas d'intéressante et qui veulent tenter l'exercice, il y a déjà quelque chose à trouver là. Après, il y a la scène avec les autres acteurs, les autres musiciens en l'occurrence. Donc il faut quand même porter un rythme, voilà, avoir écouté la musique, c'est compliqué en même temps que dire un texte. Et puis un texte lu, c'est pas tout à fait le même qu'un texte écrit. Donc il y a tout ce travail là, et on est quand même dans des degrés de difficulté qu'on additionne, même si on laisse filer. C'est une belle aventure parce qu'on est porté aussi, on est accompagné par les autres. Il y a quand même toute cette dimension corporelle, projeter la voix, tomber juste, avoir une voix qui est audible quand même. C'est pas la même chose que lire un texte contre un micro, doucement, comme ça, pour un éditoire qui est recueilli. C'est un exercice très différent. Donc là, l'écrivain, voilà, qui est entre guillemets, pour aller vite, pas professionnel de la scène et et d'un groupe de musique, bah, il faut qu'il assume tout ça, quoi, pour être à la hauteur, parce que s'agit pas d'être complètement décroché par rapport à ce qui se passe. Donc, mais c'est passionnant parce que moi, dans ce festival, les autres écrivains qui interviennent prennent aussi ce risque pour amener justement des choses plus compliquées ou plus délirantes ou plus surprenantes. Ben, ici, bon, ben, c'est pas des chanteurs professionnels, mais c'est ça qui donne le set aussi, c'est ce côté un peu incongru, mais ça marche, ça passe. Des fois, c'est sur le fil et ça passe, c'est très intéressant. Mais ben, heureusement qu'il y a des musiciens derrière qui sont sympas et qui nous prennent un peu en main, et puis voilà, quoi. Et puis, voilà, ça fait, en même temps, c'est l'originalité du projet. Parce que c'est pas un coup rapide sur un quart d'heure dans une performance ou autre chose comme ça. Là, le contrat, c'est aussi tenir un set complet, et puis se revoir, et puis peut-être travailler d'autres morceaux après et d'autres idées. Donc, c'est-à-dire que c'est un vrai travail artistique qui s'engage.
Mathias, tu parlais d'une cloche tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment il y a différentes choses qui sont prétextes à son aussi? On n'est pas juste dans une batterie classique dans ta manière de
Dans ma façon de jouer, en fait. Comment dire? Ben oui, je me sers un peu de mes tambours comme caisse de résonance. Alors, ça, je fais volonté vibrer des choses en les posant sur la peau. Donc, j'arrive à faire des sons continus, par exemple. Ce qui est à la batterie, normalement, est pas possible. Mais bon, voilà. Là, sur le morceau qu'on vient d'entendre, j'ai joué pas comme ça, j'ai joué avec des baguettes, enfin, de façon à peu près normale.
Et Fred, toi, ta pratique évolue aussi avec la distorsion, avec il y a des choses qui se transforment un peu dans ta façon d'utiliser l'instrument.
Moi, je suis un peu tombé, pas amoureux, mais presque du Larsen, quelque part, mais de le maîtriser. Et pas forcément avec du gros son, enfin le gros son dans l'ampli qui provoque ce Larsen quand on se rapproche et que les cordes commencent à vibrer toutes seules et génèrent elles-mêmes ce son. Donc j'utilise des artifices qui sont des pédales d'effet et même une guitare qui est préparée et arrangée avec un système de micro qui fait vibrer la corde et qui donc génère un son qui peut être infini ou pas et qui se contrôle. Et puis, il y a un deuxième effet, c'est du vibrato de la Stratocaster, mais aussi d'une pédale qui permet de monter, descendre des gammes. Et donc, je joue de ces plusieurs dimensions pour arriver à avoir cet environnement sonore. Mais je repense à l'idée du riff. Ce que j'aime bien dans la batterie de Mathias, c'est qu'il génère ces riffs, les riffs de guitare qu'on identifie dans le rock surtout. Et j'ai plus besoin de les faire parce qu'il les fait quelque part. Mm-hmm. Et du coup, moi, ça libère la guitare qui est un instrument de riff quelque part, qui est un instrument aussi. Moi, je utilise presque la guitare comme une voix, à contrario, quoi. Donc, je vais chercher un son qui va être linéaire, qui va monter et descendre comme une voix. Donc, c'est peut-être l'association à la fois de la voix de Didier qui lui pose les mots et Mathias qui fait de la percussion, du riff, et moi, ça me libère, ça me permet de faire une voix chantée presque. Quelque part.
Alors moi, si je peux réagir, je dirais que là, ce que j'entends me plaît beaucoup, parce que pour moi, la phrase entre guillemets du musicien qui arrive en contrepoint ou en même temps que ce que je peux dire, pour moi, c'est la continuité de ce que je dis. Donc, de fait est que Mathias ou Fred écoutent en même temps de sens, parce qu'il y a quand même du sens. Chaque texte est chargé d'une... Des fois, c'est un peu plus abstrait, mais j'essaye quand même de... Bon, c'est chargé d'orientation et donc de signification. Moi, je considère que ce sont des réponses ou ce sont des réactions et le son poursuit ce travail d'écriture et me répond. Voilà. Et je ne sais pas si eux, dans, inversement, ils peuvent aussi entendre ma phrase comme étant une continuité de ce qu'ils positionnent de façon musicale. Mais moi, voilà, c'est pour moi une sorte de continuité d'écriture. Je poursuis l'écriture à travers ce que j'entends et je réponds. Et ça, c'est un processus. Quand on n'est pas dans ce genre de configuration, c'est impossible à réaliser. Et c'est pour ça que je rappelle qu'il y a un effet quand même de transformation du texte. Et même en direct, souvent, je note quelque chose où je barre, où je fais une connexion qui n'existait pas, parce qu'elle est importante ici. C'est presque une réponse où je poursuis une idée que le son m'a donnée.
Est-ce que tu t'attends à l'énergie que tu vas trouver une fois que le morceau se démarre?
Je m'appuie dessus. Non, des fois, je suis surpris. Enfin, quand on travaille ensemble, souvent, on cherche de toute façon des choses. Et puis, incertainement, j'entends, ils démarrent sur de la musique, des fois tous les deux. Ils cherchent aussi de leur côté. Et ça appelle, moi, un certain type de texte. Je me dis, voilà, la question intéressante, c'est pourquoi ce texte-là peut correspondre à cette musique. On pourrait en prendre un autre. Après, il y a quelque chose pour moi qui s'impose assez vite. Et parce que peut-être que déjà, il y a déjà cette relation d'écriture ou de réponse qui s'installe. Voilà, c'est un processus de création qui... Plusieurs sources se mélangent. Et voilà, et puis se développent. Pour moi, c'est d'écriture. Je disais, certainement, dans le communiqué de presse du festival, c'était la communauté des écritures, d'écriture musicale, d'écriture littéraire.
Balance bascule. Balance l'intérêt, balance bascule, bascule à jamais. Balance bascule, c'est vite. Balance bascule, c'est comme si, voilà ton repas, balance-toi. Bascule sur place, il remplace. Bascule, surplus, ralenti, balance, agit. Voilà ton repas, balance-toi. Balance, bascule dans ton intérêt. Balance la raison, je ne devine pas. Dans ton intérêt, balance la raison. Balance l'appétit, pour cette fois, en contrepartie. Balance, bascule à part, on est synonyme. Balance, synonyme, bascule. Balance, faux plat. Balance, contre moi. Balance-toi contre moi. Dans notre chambre froide. Bascule, à jamais. Balance, bascule, sur place. Balance, bascule, sur place. Balance, patience. Sur place, balance, bascule, sur place.
Très peu d'écrivains ont réfléchi à la question de dire, comment dire les textes, par exemple. Et enfin, premièrement, parce que beaucoup de textes sont pas destinés à être lus à haute voix, par exemple, mais et, il y a des acteurs qui font ça très bien, par exemple, je ne sais pas, Podalides qui lit, je ne sais plus quoi, plein de choses, pour la radio, par exemple, mm-hmm. ou pour les enregistrements, etc. Après, il y a des poètes sonores, ou pas sonores, mais des poètes qui ont réfléchi à ça. Charles Penquin, par exemple, il écrit des choses, certaines choses destinées à être lues chez soi, et beaucoup de choses aussi destinées à être jouées en concert, enfin, lues par lui-même. Et lui, il a non seulement une pratique, mais aussi il a une pensée de ça.
J'ai toujours été comme ça avec moi. Il a toujours fallu sortir des sentiers battus avec ma personne. Sinon, je n'étais qu'en deux positions, comme tous les autres d'ailleurs. Les autres ici sont en position nuit. Ils sont en position nuit ou ils sont en position jour, c'est selon. Ils sont pour ou ils sont contre. Il n'y a pas toujours beaucoup de boutons avec les autres. C'est comme avec moi. Avec moi, c'est souvent sur on ou bien sur off. Si t'es sur on, c'est tout bon. Si t'es sur off, tant pis pour la catastrophe. En tout cas, tu peux pas trop te planter. Un bouton égale un bonhomme. T'appuies sur on et on est là. Tu switches sur le off et on n'est plus là. Plus de on quand il y a plus de on. Ou plus trop de on. Presque pas là le on dans mes souvenirs. C'est pas du matériel précis non plus. On n'est pas réglé comme une horloge. Même si on est sur on, on n'est pas forcément très éloigné du off non plus. À deux pas du off, même sur on qu'on est. Car on n'est pas qu'un concept non plus. Déjà, on a du mal à se souvenir de la veille, où qu'on était, qu'est-ce qu'on y faisait, et qui qu'on voyait, à qui qu'on s'adressait, à qui qu'on parle, et qui donc nous posait ces questions, et quoi qu'on lui a répondu, quelles formules furent ainsi employées, et à quel moment ça a switché, et sur quelle position, sur le on ou sur le off, et qui donc a quitté la table en premier
fort. Et ce que propose Didier, entre autres, c'est d'expérimenter, c'est-à-dire pousser certains écrivains qui n'ont pas encore abordé la question, mais qui voient ce que ça fait de faire ça. Et évidemment, comme disait Didier à l'instant, ça modifie très probablement l'écriture du texte que tu as bossé en train de le lire, ou alors tu peux la noter, le corriger, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas à l'oral, ou alors où tu te découvres une liberté de faire de ton texte un Lego, tu dis ça, tu en changes les mots à la place d'un autre, c'est ton texte, tu fais ce que tu veux, mais c'est une possibilité, c'est une solution, par exemple. Et je sais pas, enfin. Je pense à Apollinaire, qui est un immense poète. Quand on l'écoute dire ses textes, c'est juste catastrophique. Enfin, c'est même ridicule. mais c'est pas grave. Enfin, c'est Apollinaire. Le pauvre, il va m'enculer. mais je veux dire que c'est un métier de lire un texte et son propre texte, d'en faire un. C'est un métier auquel il faut penser, quoi. On peut y penser en le faisant, en invitant des poètes copains de Didier. Il les force un peu à faire ça. Et Didier Arnaudet, par exemple, non seulement a expérimenté, mais il a trouvé une solution qui est très convaincante, quoi, dans la lecture. Je ne sais pas encore d'autres auteurs qui lisent un peu aux côtés de Didier quand ils les invitent. Ils ont passé le pas, ils ont découvert un autre domaine. Pour moi, c'est un domaine artistique à part entière.
Et est-ce que cette collaboration a du sens pour vous, Mathias et Fred, dans un certain rapport à la littérature aussi que vous pouvez avoir personnellement ?
Alors moi, en fait, j'ai peu de rapport avec la littérature, ouais. Mais avec l'image, la photographie en l'occurrence. Et ce que j'aime bien dans les textes de Didier, c'est que cette manière fragmentée donc d'aborder en lui posant la question génère des images à chaque fois, enfin comme si un vomi d'images là, comme s'en lâcher comme ça, d'une manière un peu brutale quelque part, parce qu'il y a une forme de brutalité aussi dans cette poésie, je trouve. Et finalement, moi qui suis photographe et qui vit de ça et dont c'est la passion depuis très longtemps maintenant, et j'ai ce plaisir d'accompagner des images qui sont générées par des mots et plus par la réalité qui est en face de moi. Et du coup, ça donne aussi une forme de liberté pour la musique.
Et comment tu ressens ça sur les textes de Vanina, par exemple ? Est-ce que l'expérience est très différente ?
Alors, Vanina, elle a une manière de lire ses textes très musicales, avec une voix très... très, comment dire, tout est articulé du début jusqu'à la fin, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est souvent assez court, parce que elle a beaucoup fait beaucoup d'efforts pour lire ses textes, finalement, pour que ce soit absolument comment dire, compréhensible. Chaque mot, chaque syllabe est strictement bien articulé, et le lit avec un certain débit. Et elle a une voix aussi très aiguë, enfin une voix très féminine évidemment, qui génère une musicalité sur laquelle en fait, il suffit de s'appuyer et ça passe tout seul. En fait, elle est aussi quelque part à la suite de son plein gré, musicienne, quoi. Mm-hmm. Et donc, c'est un autre univers. Et elle aussi, elle a une manière de... Elle relie ses textes qui sont déjà donc préparés, mais elle ne sait pas forcément à l'avance ce qu'elle va lire. Et est-ce qu'elle peut très bien changer ce qu'elle avait prévu au dernier moment. Ce qui fait qu'il y a une forme d'improvisation dans la lecture aussi, dans son cas.
La seule chose qu'on puisse dire, un monde parfait. Élevez une main à hauteur de l'épaule, imprimez-lui un mouvement de rotation comme si vous dévissiez une ampoule. Elle disait que si vous regardiez avec attention, avec vraiment beaucoup d'attention, tout deviendrait intéressant tellement que vous oublieriez de vivre.
Oui, alors moi ce que je voudrais dire, c'est que Mathias a parfaitement la raison. Et ce qu'on défend, hein, c'est que c'est un champ artistique à part entière. Voilà. Donc là, on est dans une forme où cette réunion de la littérature et de la musique, alors ça c'est une... Je paraphrase un peu Mallarmé qui disait que la littérature et la musique sont les deux faces de la même idée. Et moi je pense qu'on arrive à une sorte de nouveau texte voilà, en créant ces morceaux. Voilà, donc, et puis bon, voilà, il y a une nouveauté aussi de la part des musiciens. On est dans un champ artistique qui me semble vraiment à part et qui n'a rien du tout donc, à voir avec en ce moment les effets de mode des lectures musicales ou des siestes musicales, tout ce qu'on veut, qui sont un plaquage qui malheureusement existe depuis longtemps, où on plaque une forme sur une autre pour faire de l'illustration. Quoi. Non, alors là, on arrive nous à un moment où je veux prendre le contre-pied de ça. Et affirmer que c'est il y a un travail artistique particulier à cette forme et que c'est nous qui la tentons, c'est un peu comme ça que ça arrive avec nos petits moyens et avec des gens qui sont passionnés et puis voilà, mais faut le faire et il y a vraiment un enjeu artistique je trouve vraiment important, moi j'en suis vraiment persuadé.
Lire la poésie avec du rock ou peu importe, même de la musique bizarre, contemporaine, etc. Ça met aussi la poésie à un endroit où elle n'est pas d'habitude, à savoir le lectorat les amateurs de poésie sont très très peu nombreux, malheureusement. Et moi-même, par exemple, tu posais la question tout à l'heure, il y a encore peu de temps, je ne sais pas, c'est parce que je deviens vieux, mais plus ça va, plus j'aime la poésie. Mais c'est aussi parce que Didier m'a mis le nez dedans, m'a présenté des gens que je les ai vus faire. Pour moi, c'est devenu des gens concrets, enfin, au travail, comme moi, qui sont aussi... J'avoue que je ne lisais pas de poésie, à part les choses qu'on étudie au lycée, etc., qui sont plus ou moins bien présentées par les profs, etc. Mais la poésie m'emmerdait. Maintenant, je commence à lire de la poésie. Et puis, en voir en concert, c'est aussi une façon facile d'entendre des textes qui peuvent être qualifiés de contemporains, difficiles, abscons. Non, ils sont pas abscons. Il y a un gars qui est une femme qui est en train de les lire, là. Et c'est comme écouter de la musique, de la bonne musique, enfin, peu importe. Mais c'est une façon d'accéder à la poésie, très simplement, dans une salle de concert, un café, un bar, peu importe. Il était temps que quelqu'un s'occupe de mettre la poésie. Peut-être que ça existait au Moyen-Âge. Ça, mais maintenant, voilà, on peut enfin écouter des créateurs contemporains facilement, sans passer pour un type tout seul à déprimer sur son livre dans sa chambre. Non, on est loin de là, quoi. C'est plutôt marrant.
Une émission réalisée dans le cadre d'un partenariat avec la Pommerie et Paysages pour annoncer le festival Multipiste Texte Musique Expérience sur le territoire néo-aquitain. À vos agendas, le lancement se fera à l'Accordeur en Gironde le 19 septembre pour une soirée exceptionnelle en compagnie de plusieurs artistes et écrivains et se poursuivra jusqu'à la fin octobre.